Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction du S Racing, pour parler non pas d'une, mais de deux courses d'IndyCar, petit miracle, et pour parler aussi de NASCAR, puisque la NASCAR était du côté de Richmond, et comme d'habitude, fidèle au poste, Aloïs. Salut Aloïs.
Salut Geoffroy, bonjour Lilian et bonjour à tout le monde.
Figurez-vous, il a vu toutes les courses cette semaine, Aloïs, et il va pouvoir nous donner son avis sur tout ce qui s'est passé. C'est un truc de dingue, ça.
Comme d'habitude, hein.
Ça va secouer le cocotier, tout ça.
Ça va secouer le cocotier. Et vous avez reconnu sa douce voix de ch'ti du Nord, c'est Lilian. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, et bonjour à tous.
Bon, Lilian aussi, il a vu toutes les courses, mais pas forcément en direct. Lâcheur.
Après l'IndyCar, j'étais fatigué, donc j'ai profité du track pass, j'ai regardé la NASCAR tranquillement dimanche.
Fignasse.
Dimanche matin, au réveil, et pendant le petit déj, c'était très bien.
Alors, l'IndyCar, Lilian, on était du côté de Mid-Ohio pour deux courses, donc les fameuses deux courses qui devaient se tenir au mois d'août, le 8-9, un truc comme ça, enfin sur le premier week-end d'août, et qui ont été reportées au week-end dernier du fait de l'épidémie de coronavirus qui sévit un petit peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis. Et donc, du côté de l'Ohio, on n'avait pas voulu prendre de risques, et on nous a reporté les deux courses du Dixon Land, à ce week-end.
Mais c'est bien, ça nous a rempli le mois d'août. Septembre.
Septembre, ah bah d'accord. Monsieur est pressé de partir en vacances, a priori. Mais bref, le Dixon Land n'a plus que ça de nom, quoi. Ce n'est plus le jardin de Scott Dixon, en tout cas.
Eh ben, pas cette année, ouais.
C'est quoi, une seule victoire depuis 2014, à Mid-Ohio, je crois.
Ben, l'an dernier, il a gagné en résistant à son coéquipier.
Oui, mais sinon. C'est tout. Il faut remonter à 2000.
Ouais, bon, après, il y a des passes. Hein. En NASCAR, c'est pareil. Hein. On a eu Harvick à Phoenix, de Johnson à Charlotte. Voilà, après, il y a des lois des séries, puis ça se finit toujours par s'arrêter.
C'est exactement ça. Et donc, une série aussi qui s'est arrêtée le samedi, c'est Will Power sur la Victory Lane. Enfin, c'est même pas une Victory Lane en IndyCar, mais voilà. Will Power, vainqueur à Mid-Ohio. Ça ne lui était jamais arrivé en 12 courses à Mid-Ohio. Il a fait la pole, il a gagné. Tout va bien pour Will Power, sinon qu'il a un petit peu décroché au classement général et que le titre, ce ne sera pas pour lui cette année, Lilian.
Bah, de toute façon, c'est un peu à l'image d'Alexander Rossi. Ouais. Ça reste une saison quand même compliquée pour Will Power. Il y a eu quelques bons résultats dernièrement et puis là, bah, tu l'as dit, il a signé la pole. Course sans drapeau jaune, ce qui reste, je ne vais pas dire classique à Mid-Ohio, mais c'est pas rare.
Oui, ça peut arriver.
Voilà, c'est pas la première fois que je regarde une course de Mid-Ohio sans drapeau jaune. Donc voilà, la Penske revient quand même aux avant-postes après un bon double header à Gateway. Et puis bah là, voilà, carton plein pour Will Power en tout cas sur cette première course.
Ouais. Alors, sans accroc. Alors oui, on t'a pas encore entendu sur cette première course extrêmement fluide avec un Will Power qui mène 66 et 75 tours.
Bah voilà, c'est ce que j'allais dire, Will Power qui mène 70 et 75 tours de la course. Bonjour, au revoir à la seconde course du double header, clairement. Il a pas eu de grande compétition. Il a couru entre 5 et 10 secondes devant le reste du peloton pendant une grande partie de la course. Il n'a pas été mis en danger plus que ça. Et encore moins en sachant que Joseph Newgarden, donc son coéquipier, termine à la seconde place derrière lui.
Oui, à 7 secondes 5 en gros. Donc voilà, doublé de la Penske sur la première course. Troisième, Alexander Rossi.
En revenant.
Comme quoi, Alexander Rossi, quand ça va, tout va, quoi. C'est comme Kyle Busch en NASCAR cette année. Alexander Rossi, c'est absolument pas ça. Par contre, quand les planètes sont alignées, bah, ça fait troisième et deuxième sans qu'il y ait absolument rien à dire. Et ça lui permet de respirer un petit peu au classement général parce que c'est toujours indigne de son statut d'être douzième du classement. Mais bon, c'est toujours mieux que de traîner sa misère en fond de top 20.
Il reste plus que trois courses. Hein. Malheureusement, il ne fera pas beaucoup mieux. Bon, il pourra reprendre quelques places, mais bon, ça finira pas dans le top 5 cette saison, c'est clair.
Est-ce qu'il pourra en claquer une d'ici la fin de la saison, selon vous?
Pourquoi pas?
Oui, je pense qu'il peut en claquer une. Après, c'est vrai que Indianapolis, c'est un peu le jardin Penske entre Power et Pagenaud. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis, la finale du côté de Saint-Pete, tout va rester ouvert, surtout si Scott Dixon, par exemple, venait à perdre des points à Indianapolis et que Joseph Newgarden se rapproche dans l'optique du titre.
Parce que clairement, il n'y a que Newgarden qui peut aller chercher Dixon.
Clairement, il y a
Après, c'est déjà, j'ai pas le classement devant les yeux, mais
À la
si tu
sortie de
me
la
rappelles,
seconde
c'est bien trop loin, quoi.
course, Joseph Newgarden a 72 points de retard sur Scott Dixon. Ce qui est pas mal, mais au final, si Dixon se loupe sur une seule course, ça peut resserrer le classement.
Ouais, enfin, faut quand même une mauvaise course et une très mauvaise pour Dixon, quoi. Ça
Ouais,
aille.
vu l'expérience du bonhomme, ça va.
Il y a de la marge. Et puis, enfin, ces trois courses routières. Alors oui, on peut être pris dans des accidents. Demander à Alexander Palou, Alex Palou et Félix Rosenquist qu'ils en pensent sur la seconde course. Il peut faire des boulettes, Scott Dixon. Ça y arrive une fois toutes les morts d'évêque, mais ça y arrive.
Sur la seconde course, par exemple.
Ah, il en fait une belle, hein. Il l'a dit, rookie mistake. Hein.
Ah, celle-là, elle est belle. Mais bon, ça,
Bah, ça
voilà.
rappelle à l'ordre au final, hein. Faut pas qu'il se repose sur ses lauriers. Au final, il fait deux fois dixième à Mid-Ohio, alors que Joseph Newgarden fait second et huitième. Donc il le reprend quand même un petit peu de points.
Ah, ça, c'est sûr. Il lui reprend 20 points sur la première course et il lui reprend 2 points sur la seconde. 4 points sur la seconde. Tout sauf. Sur la seconde, c'est pas exceptionnel. Sur la
Il aurait
première,
pu faire mieux.
c'était intéressant. Mais voilà, après, fin, Dixon est au-dessus cette année. Le titre de Dixon sera amplement mérité cette année. Il n'y a pas de souci, quoi. 6 titres, il y a. Mais honnêtement, c'est plus un titre à perdre pour Dixon qu'un titre à gagner pour Newgarden cette année.
Et c'est pas la première fois qu'on le
Ouais.
dit, ça restera le cas jusqu'à Saint-Pétersbourg.
C'est fort probable. Alors, on va essayer de terminer quand même avec cette première course, messieurs. Graham Rahal qui fait quatrième, Ryan Hunter Ray qui fait cinquième, et du coup, bah, qui confirme la belle perf d'ensemble de l'Andretti, deux dans le top 5, ça tient du miracle cette année, il faut quand même être
C'est
honnête.
tout l'un ou tout l'autre hein, chez Andretti de toute manière.
Ouais. Et après, le top 10, Rosenquist, Harvey, VK, Herta, Dixon. Donc,
Rien de surprenant si on regarde la saison.
non, rien de surprenant. Après, t'as pas de... quand tu regardes les noms qui sont pas là, il n'y a pas de Sato, il n'y a pas de Pagenaud, il n'y a pas de Askew qui fait une saison correcte, il n'y a pas de Howard. Voilà, il y a
Pat
que...
Howard fait 11 sur la première course, donc ça encore. Mais honnêtement, Sato Pagenaud, je suis pas tellement surpris que ça, puisque en 2020, ils commettent quand même pas mal d'erreurs. Sato a gagné l'Indy 500, je suis au courant. Mais ça n'empêche que les deux pilotes, bien
Erreur.
qu'ils soient vétérans, ils sont tout de même assez, pas, j'irais pas connus, mais en 2020, les erreurs, ils les accumulent un petit peu quand même.
Ouais, bon après ils sont quand même 7e et 8e du classement général, donc les retrouver dans le top 10, ça aurait pas non plus été aberrant. Ça fait quand même
Oui.
partie des noms quand tu dois sortir un top 10, c'est quand même des noms qui sortent dans 80% des cas, à
Ouais,
minima.
7 et 8e sur un championnat. Allez, quoi, on va dire 22, 23 compétiteurs réguliers, t'es quasiment mis le tableau, hein.
Oui, je suis d'accord, mais bon, enfin, dans ce cas-là, 7 et 8e sur 23 en course, c'était milieu de tableau aussi, hein. Enfin,
Ah,
tu vois
j'ai
ce que
pas
je veux
vu que
dire.
c'était.
Donc, non, voilà, c'est, enfin, c'est, tu peux les attendre, tu pouvais les attendre dans le top 10 si j'étais pas, mais il y a rien d'insurmontable sur cette première course, qui aura finalement duré moins d'une heure et demie. 75 tours seulement, on avait un petit peu réduit la longueur des deux courses, à Mid-Ohio, et là.
Potentiellement menacé par la pluie sur la fin, sur la toute fin.
Et la pluie qui est tombée, je crois, dans le tour de décélération.
Et les mécanos ont même été chercher les pneus pluie au cas où. Bon, finalement, ça a été.
C'est ça. Et la seconde course, la pluie, c'était pendant les qualifications. Ça a bien mis le bazar sur la grille de départ avec, pareil, une grille donc assez typique des courses sous la pluie. Je veux dire, du Herta en pôle devant Ferrucci. J'ai rien contre les deux, mais c'est pas forcément des pilotes que tu vas retrouver sur la première ligne d'une grille de départ sur le sec. Après, Dixon, troisième, c'est logique. Alex Palou, quatrième, pareil. Enfin, ça rentre dans dans les entre guillemets anomalies de la pluie, cinquième Rosenquist, j'essaie de retrouver le sixième mais je le vois plus. Sixième, c'était Pagenaud. Donc voilà, après ça commence un petit peu à s'équilibrer, mais tu trouves un Willpower 17e parce qu'il craint un drapeau rouge, donc son temps est annulé. T'as des petites choses. Sato 22e.
On l'a pas vu du week-end, pas le Sato pour le coup.
Oui, c'est ça. Il était un peu éteint, quoi. Mais bon, ça arrive. Et un premier tour à Loïs, complètement fou, assez fou. Avec un Santino Ferrucci qui s'est cru au bowling.
Ah, il a quand même été un petit peu poussé dans l'air par Colton Herta. Je pense que Lilian est en partie d'accord avec moi.
Pour moi, il a été tassé dans le gazon, c'est clair.
Colton Herta, c'est le lanceur de boules. Santino Ferrucci, c'est la boule de bowling.
Et puis on le voit, on se dit, s'il revient, ça va faire mal.
Et paf.
Ouais, ça a fait un tout petit peu paf. Ouais.
Et si tu veux, j'ai fait, oh, Dixon, ça va relancer le championnat.
Et non.
Et en fait, et au ralenti, ouais, l'aileron passe vraiment d'un rien à côté de du pneu arrière gauche de Dixon. Ouais.
J'ai envie de dire la chance du champion.
Par exemple, ouais.
Potentiellement.
Parce que si c'était Power à sa place, t'étais certain qu'il se le prenait en pleine face. Hein.
Ah, mais tu mets n'importe qui, je pense que ça marche avec n'importe qui. Donc voilà, enfin, Dixon s'en sort heureusement pour lui. Mais par contre, Rosenquist et Palou. Non, absolument pas eu cette chance. Non. Et ça a fait deux de moins après quelques virages. Alors, Scott Dixon, il a été épargné sur le départ à Loïs, mais pas sur le restart. Il s'est dit, tiens, j'ai eu de la chance, mais je vais quand même me faire marquer si je faisais une petite rookie mistake et si je faisais un petit tête à queue.
Bah, il l'a fait, mais dans les règles, hein.
Oui, il repart bien, enfin, tout le monde l'évite, il touche personne.
En tout cas, on le voit dans le virage, petit coup de volant, tu dis oula, 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 puis le pneu arrière droit, en dehors du vibreur, un peu de terre qui se lève, oula, 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 et puis basta, dans l'herbe, fini.
Et là, terminé, il la perd.
C'est ça, et le virage 1, qui est le plus rapide à Mid-Ohio, qui aura quand même été un petit peu le tombeau des espoirs de certains pilotes. Dalton Kellett qui se met en vrac, il y a Marco Andretti qui va jardiner aussi, et qui voit passer à peu près tout le train du peloton.
Ceci dit, Marco Andretti fait un week-end super constant. 23e sur la première, 20e sur la seconde. On adore.
Je savais bien qu'il fallait que je le pronostique pour faire un point.
Ah bah tu vois, t'as manqué une belle opportunité.
Avec Kimball, t'as fait un point.
Bah ouais, mais j'aurais voulu être constant, quoi. C'est pas grave.
Faut toujours demander aux valeurs sûres. Marco Andretti, c'en est une.
Mais arrête, je l'ai pas pronostiqué de la saison, t'imagines un peu.
J'ai fait un... Je l'ai pronostiqué à Indianapolis. On appelle ça les Coronets.
Ouais, le mauvais dimanche. un dimanche trop tôt, ça pourrait être le titre d'un film. Dans le rôle principal, Marco Andretti. Voilà, c'est moche. À la narration, à Loïs.
Oula.
Préparez-vous, c'est soporifique.
En parlant de soporifique, la victoire de Colton Herta, elle a été tout autant que celle de Will Power la veille.
Ouais, enfin, on a quand même cru qu'Alexander Rossi pouvait revenir.
À un moment, ça s'est bien resserré. Et c'est vrai que Colton Herta, à la fin, était en pneu rouge, alors que Rossi était en pneu dur.
Donc rouge, c'est les tendres. Hein.
Ouais, c'est les tendres, voilà. Et on s'est dit, oula, on arrive en milieu de relais. Si les rouges, les performances des pneus tendres commencent à s'effondrer, ça peut sentir bon pour Rossi. Et puis, bah, étonnamment, non. C'est vrai que Herta a su maintenir Rossi à plusieurs secondes et à s'assurer sa première victoire de la saison et sa troisième en carrière.
Et oui, c'est passé comme ça pour Colton Herta devant Alexander Rossi et Ryan Hunter-Reay. Il y a un triplé de l'écurie Andretti.
Ça n'a pas dû arriver depuis un moment.
Ah bah pas de cette année, ça c'est sûr. J'ai pas la stat en tête, je t'avouerai.
Oh, c'est clair. Alors là, moi non plus.
C'est moche. Je suis désolé, j'ai pas la stat. J'ai mal bossé, mais oui, ça fait un petit paquet de temps. Surtout qu'en plus, Herta, bon, c'est Andretti. C'est un peu comme Marco Andretti. C'est Andretti sans l'aide, quoi. C'est à moitié.
Ouais, mais de toute façon, Andretti fait la moitié du peloton.
C'est ça, oui.
Tu vois le nombre de voitures qu'il engage, t'as la moitié de l'écran qui est rempli.
Et en plus, il en met à peu près sur la moitié du peloton, quoi. C'est assez bien réparti. Voilà. Quatrième, Rahl, encore une fois, constant, hein, puisqu'il était quatrième de la première course. T'as vanté Marco Andretti qui fait 20e et 23e. Je suis désolé. Rahl, c'est quatrième et quatrième, Aloïs.
J'irais même plus loin, on pourrait mettre dans le même panier Alexander Rossi, Graham Rahl et Ryan Hunteray, qui ont été tous les trois dans le top 5 sur la première et la seconde course.
Ah bah s'ils ont été tous les trois, alors tout va bien. Mais oui, mais effectivement.
Je pense que c'est quand même les hommes du week-end, puisqu'on les a vus à l'avant du début de la première course à la fin de la seconde.
C'est vrai qu'Hunteray fait cinquième et troisième.
On n'est pas forcément habitué à le voir performer plusieurs courses de suite. Hunteray, hein. Maintenant, ça fait plusieurs saisons qu'on a le droit à un coup d'éclat par-ci par-là, puis après, c'est très décevant.
Et oui, toute proportion gardée, mais après, vous allez me dire que je suis méchant, mais ça me fait penser à Tony Kanaan.
Bah, c'est pas faux, c'est vrai qu'Hunteray, depuis son Indy 500, je veux dire 2014,
oui.
Il n'a pas fait grand-chose d'autre.
Celui qui l'a gagné, hein, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Oui, 2014. Donc oui, 2014.
C'est ouais, il a pas non, c'est pas ça pour Hunteray.
Non, mais bon. Après, il est champion, il a gagné les 500 miles. Il y en a qui voudraient bien ce palmarès là.
Mais je pense que c'est un peu, il me fait penser un petit peu à un Dario Franchitti. Il a pas trop il a pas trop digéré le passage au châssis des W12. Parce que c'est à partir de là qu'il a commencé à gagner beaucoup moins. Et même maintenant, avec la nouvelle monoplace, ça reste quand même des résultats en dents de scie. De temps en temps, c'est là. Puis après, ça repart dans les profondeurs du classement ou c'est pris dans les accidents. Ça va revenir aux avant-postes. Et puis sur le prochain double header, est-ce qu'on va le voir aux avant-postes? Bien malin qui peut le dire, très sincèrement.
Ouais, mais bon, l'avantage, c'est que ça ramène du pognon. Ça ramène un sponsor.
Ah bah oui, c'est sûr que son sponsor jaune est là pour mettre des billets sur la table, c'est clair.
Qu'est-ce qu'on n'a pas cité sur cette seconde course? Marcus Ericsson, cinquième. Quand c'est pas Rosenquist, c'est Ericsson, en fait, le deuxième chez Ganassi, globalement.
Ouais.
Et, ça tourne, c'est correct. Ça lui permet de passer à la 13e place du classement général. Sixième, Simon Pagenaud. Ouais, c'est ce que disait un petit peu Aloïs, hein, il continue sa saison assez anonyme.
Je dirais pas anonyme, mais inconstante, c'est certitude.
Ouais, et après décevante aussi, parce que c'est Penske, parce que c'est un champion, aussi. Parce que ça a gagné les 500 miles.
Cette année, c'est le plus faible des trois.
Oui.
Malheureusement, c'est le des trois, il n'y a que lui qui n'a pas encore gagné. Et au niveau des résultats, il n'y a pas photo.
Non, c'est clair. Triplé Penske, puisque 6e Pagenaud, 7e Power et 8e New Garden. Franchement, on n'a pas senti que ça pouvait faire mieux sur cette seconde course. Et puis, la stratégie a vite été imposée du fait de la neutralisation créée par Dalton Kellett au 16e tour.
Aussi, c'est vrai.
Ça a un petit peu lissé toutes les stratégies, cette affaire. Ensuite, qui a ton 9e Pato Howard qui se rattrape, je crois, de sa première course? Ah non, il avait fait 11e, non, ça va.
Et la première course, c'est vrai qu'Aloïs l'a cité, mais j'ai oublié de le dire, il cale dans les stands.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il ne fait que 11e.
Oui.
Quand tu cales dans les stands sous verre, ça pique, hein, forcément, temps de relancer la voiture.
Oui, c'est ça. Et 10e, Scott Dixon. On a les trois premiers du championnat qui sont 8, 9 et 10 sur cette course-là. Mais bon, c'est pas pour autant que ça resserre réellement le championnat. Parce que bon, certes, le quatrième gagne, mais...
Il reste plus que trois courses, surtout.
Oui, c'est ça, il reste trois courses. Déjà plus que trois courses et deux pistes à visiter. On aura début octobre, qu'est-ce que j'ai dit? Le cinquième double header en six courses.
Ouais, puis encore une fois Indianapolis, ouais.
Et encore une fois Indianapolis.
Ouais, c'est ça, c'est l'IndyCar Indianapolis Series.
on sent que l'Indy arrive.
Sponsorisé par Roger Penske.
Calme-toi, garde pour le mois d'octobre quand on va débriefer la saison IndyCar. Je crois qu'on a fait le tour de cette seconde course. Hein. On a parlé des incidents des uns des autres, du classement général. Donc, comme tu l'as dit, Lilian,
la c'est prochaine Aloïs, course, je crois.
C'est Indianapolis.
Ah, ouais.
Oui, non, c'était bien toi qui l'as dit. C'est Indianapolis, c'est début octobre. Et puis après, on aura la finale du côté de Saint-Pete, mi-octobre. Et donc, on aura fini de la saison IndyCar. Le calendrier 2021, a priori, devrait tomber dans le courant du mois.
Et combien de double header cette fois-ci?
Bah, en fait, il y aura un 14-header.
Parce que comme, malheureusement, pour la saison prochaine, on n'en aura malheureusement pas terminé avec le Covid, est-ce qu'il y aura encore des états, donc des pistes qu'on ne verra pas au calendrier?
C'est possible.
Il y en a quand même une paire, on n'a pas été à Barber, on n'a pas été à Détroit. Les premières qui me viennent.
Portland, Laguna Seca.
Ouais, donc est-ce qu'on pourra aller sur ces pistes dans quelques mois, quoi?
On n'a pas fait Richmond non plus, je crois qu'il y avait Richmond initialement. Voilà. Aloïs, t'as envie de parler maintenant ou tu gardes tes munitions pour octobre?
J'ai gardé mes munitions pour octobre. Il reste plus que 2 week-ends de course. Soyons patients.
2 week-ends de course sur les 6 prochains. Ok, vas-y, recharge la sulfateuse.
T'inquiète, elle sera chargée et il y aura de quoi dire.
Allez, Lilian, sans transition aucune. J'aime pas. Je sais même que t'as une info qui sert à rien.
Pour une fois, j'ai une info qui sert à rien. Je me suis dit que pour une fois, c'est moi qui m'y collerai.
Allez, vas-y.
Le j'aime pas d'abord, on est d'accord.
Ouais, vas-y.
Allez, bah le j'aime. Une bonne randonnée sous le soleil avec le chien malade.
Oh, bah alors, c'est beau.
Bah ouais, écoute, petite mise au vert. Après la course, une bonne randonnée, c'était sympathique.
Et le j'aime pas
bah, les accidents au Grand Prix de F1 en Toscane. Ça fait quand même pas mal débat.
Mais en fait, on a retrouvé les drapeaux rouges de l'IndyCar. C'est bon.
Ouais, ça, c'était très drôle, ouais, ce que tu nous as dit en off.
Ouais, c'est.
Mais bon.
C'est moche. Bah, en même temps, la règle sur les relances est telle que le leader fait ce qu'il veut. Voilà.
Ouais, mais ils sont pas habitués au restart en Formule 1. en IndyCar, c'est les départs, mais bon.
C'est ça. Aloïs, t'as pas encore entendu.
Alors, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas.
Ouais.
Ça sent le cyclisme, tout ça. L'abandon de Romain Bardet.
Putain, comment tu as lu dans mes pensées? la poisse ultime de l'Auvergnat qui tombe, qui se chope une commotion cérébrale sur les routes du Cantal à quelques kilomètres de chez lui et qui doit abandonner le soir, ça m'a fendu le cœur. Et c'est à l'image de sa carrière, toujours un truc qui vient enrayer la machine. Et là, pour son dernier Tour de France sous le maillot de l'équipe AG2R mondiale, et ben... C'est de retour à la maison prématurément et c'est un gros j'aime pas, surtout qu'il a sorti une sacrée montée du Puy-Marie qui est très raide pour ceux qui ne connaissent pas et tout cela avec une commotion cérébrale sous le casque. Donc chapeau l'artiste malgré tout.
Et ton j'aime du coup?
Je vais faire un j'aime en deux parties, c'est encore du vélo, je suis désolé. Mais du coup, la première partie, c'est j'ai beaucoup aimé le stade sponsorisé par Covid-19 dans la montée des S à la Croix-Rousse à Lyon. Je voulais faire un tour pour voir l'arrivée à Lyon samedi. Et il y avait énormément de monde. On se serait presque cru à l'Alpe d'Huez les grands jours.
Ouais, c'est l'Alpe d'Huez du pauvre, en fait, là-bas.
Oui, c'est à peu près ça. Mais en tout cas, il y avait beaucoup plus de monde que ce que j'imaginais.
On a vu ta photo.
Ah, c'était sympa. Et mon deuxième j'aime, du coup, c'était le lendemain. Et j'ai beaucoup aimé le cycliste qui m'a doublé et qui m'a servi de lièvre dans une montée. Du coup, j'ai explosé mon record de la montée de 2 minutes, en passant de 9 à 7 minutes. Et je ne m'y attendais pas. Et j'étais, ok, bon, je vais essayer de trouver un lièvre plus souvent, du coup, pour améliorer mes records.
Mais on t'a vu à la télé, hein.
Eh, hey, je suis passé trop vite pourtant, comment t'as fait pour me voir?
Tu courais les fesses à l'air?
Ah non, c'était pas moi.
Et puis il avait un maillot Target alors.
On dira pas où était la cible.
À vous de deviner.
Tiens, je vais commencer avec mon j'aime pas, comme ça on termine avec le Tour de France parce qu'il y en a marre. C'est la réalisation que je trouve assez médiocre de France Télé et qui
c'est nul.
Qui est à peine sauvée par les commentaires d'Eurosport quand tu vois sur la partie internationale. Quoi.
Ah, la réalisation de France Télévisions, elle est à chier.
Ah, mais faudrait peut-être pouvoir faire des doubles fenêtres de temps en temps, ça pourrait être utile quoi, quand il se passe.
C'est tellement plus utile de montrer les vieux châteaux et les petits villages.
Non, mais c'est très bien ça, c'est très bien. Mais par contre, quand le réalisateur il manque la moitié des actions sur, sur la course, c'est bon, c'est, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et mon j'aime, monsieur, c'est que cette semaine, je suis allé courir, j'ai découvert une grotte, et franchement, j'y suis allé, c'était sympa.
Il vit dedans maintenant.
Il y a Lascaux à côté de Strasbourg maintenant ?
Ah, presque, 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 presque. Franchement, le truc, c'est sympathique, et c'est très joli. Je pense que tu aimerais, c'est humide et glissant, c'est, je pense, et tout ce que oh. t'aimes.
Voilà. Je vois pas de quoi tu parles, Geoffroy. Hein.
Ouais, mais moi si. Allez, sans transition aucune, Lilian, on te repasse la balle pour le j'aime et le j'aime pas. Pour l'info qui sert à rien, pardon.
Ah, bah l'info qui sert à rien. Bah, pour ceux qui nous écoutent, c'est que vous avez dû regarder la course de NASCAR. Donc vous savez que c'est Brad Keselowski qui a gagné la course de Richmond.
Oh, le spoiler de merde!
Et les gens ne l'ont pas vu?
Ouais, c'est ça. Bah oui, non, non, ça c'est à Loïs qui ne l'a pas vu. Et pour ceux qui ont l'habitude de voir Keselowski gagner, en temps normal, il aime bien sortir son petit drapeau national.
Oui.
Et puis, bah, malheureusement, eh bah, ils ont perdu le drapeau américain pour Brad Keselowski, qu'il aime bien mettre dans sa voiture. Donc, il a fait sans, le petit.
Oui, et je crois que c'est la seconde fois seulement qu'il célèbre sans le drapeau américain.
Bah, c'est possible, mais en tout cas, oui, c'est ce que les commentateurs ont dit. Ils ont pas, enfin, ces mécanos ne l'ont pas trouvé. Donc,
C'est ça. Je crois que 2009, quand il gagne à Talladega, il ne le fait pas. Et sinon, il l'a toujours fait. Voilà. Voilà.
On recherche le drapeau.
Allez, Lilian, tu nous as fait une transition parfaite pour la
NASCAR. Ah ouais, c'est ça.
Donc, c'était à Richmond, tu l'as dit, c'est Brad Keselowski qui a gagné. Brad Keselowski qui revient en forme, on va dire, au meilleur des moments pendant les playoffs.
Et il l'avait annoncé il y a quelques jours. Hein. Il avait dit, si on ne gagne pas, je serai déçu.
Et ce n'est pas une victoire au rabais, si tant est qu'il y ait des victoires au rabais. 192 des 400 tours menés, on ne peut pas dire que... Voilà, il l'est volé, celle-là.
Ah, donc c'est clair. Bah, j'ai envie de te dire, même, quand même, gros week-end pour la Penske, puisque ça a gagné en IndyCar, en Xfinity et en NASCAR. Enfin, et en Cup.
Ouais, enfin, demande à Ryan Blaney si c'est un gros week-end pour la Penske.
Ah, lui, ça fait deux. Lui, on va y revenir, mais ça fait deux week-ends de merde.
Comment il a fumé son spotter à la fin de la course?
et il va nous plomber tous nos pronos, ce con.
Mais. Il y avait de l'ambiance dans l'équipe 12 samedi soir à la fin de la course.
Ah bah tu m'étonnes.
Oh, le spotter, il n'a rien demandé à personne, il s'est fait allumer. Le chef d'équipe, il a essayé d'éteindre l'incendie comme il a pu. Mais Ryan Blaney, je pense que tu l'avais en interview, à côté Kyle Busch était un enfant de cœur.
Et encore une fois, la NASCAR s'est barrée juste après l'interview de Keselowski. Ça fait deux semaines de suite qu'ils nous font ça.
Deux semaines, t'es gentil, hein. Ou alors t'as arrêté, c'est parce que tu sais pas qu'on est au-delà de deux, mais...
Bon, c'est que d'habitude, je cherche pas à regarder les interviews, mais là, je vais aller plus loin, l'interview du vainqueur, et puis bah non, en fait, il se barre tout de suite.
En attendant, pour en revenir à Ryan Blaney, c'est quand même inquiétant ses débuts de play-off. 24e à Darlington et 19e à Richmond. Il est même dernier du top 16.
Ouais, de toute manière, là, maintenant, c'est quasiment une victoire obligatoire pour Bristol s'il veut passer.
Hein. C'est une victoire obligatoire. Et...
Bon, bah, voilà.
Il a pris une pénalité aussi à Bristol. À Darlington, pardon.
Oui, avant le départ, il avait déjà pris 10 points dans la tronche, ouais.
Donc, voilà, ça n'aide pas. Donc, Ryan Blaney, c'est quand même aussi une surprise. Est complètement largué en ce début de premier tour.
Bah, il y a deux surprises, il y a deux grosses surprises sur ce premier tour, après ces deux, enfin, sur ces deux premières courses.
Une bonne et une mauvaise, c'est ça?
Bah, pour toi, c'est une mauvaise, la bonne, mais...
Ah non, justement, quand même, restons objectifs. Mais je pense que la bonne nouvelle, c'est les performances d'Austin Dillon, c'est ça?
Ah oui, bah, oui. Ouais, non, bah oui. Enfin, je veux dire, qui aurait dit Austin Dillon va nous faire top 5 à Darlington et à Richmond?
Bah, mon avis. Celui qui a fait ça à Vegas, il est milliardaire. Hein.
Ouais, oui, je confirme. Ouais. Parce que là, vu le paquet de points d'avance qu'il a sur le premier non qualifié, enfin, Austin Dillon, il peut faire 20-25e, il n'y a aucun problème. Quoi. Tant que ce n'est pas un des quatre derrière qui gagne, ça va.
Oui, on va y revenir après sur le classement. Mais
ouais.
Ouais, il peut fumer la pipe tranquille. Hein. Donc, Martin Truex Jr. aussi, messieurs, qui fait deuxième.
Ouais, bah alors lui, il est sur une série.
La série continue?
Allez.
C'est impressionnant, Truex. Bon.
C'est énorme.
Au final, on se posait des questions sur la composition du top 4 final. On avait des pilotes qu'on avait déjà cochés, par exemple Denny Hamlin et Kevin Harvick au hasard. Mais je pense que les deux autres, on peut déjà les ajouter quasiment, hein, entre Keselowski et Truex, vu les performances des dernières semaines.
Oui, globalement.
La facilité, c'est vrai que c'est ces quatre-là, c'est clair.
Après, on verra bien ce qui peut se passer, mais c'est vrai que Truex est sur une série commencée. Ça au mois d'août, quoi. Enfin, depuis le mois d'août, voire peut-être.
Depuis, on peut rajouter depuis le double header de Pocono.
Ouais, oui, donc mois de juillet. Non, mois de juin, Pocono. Ouais, c'est un truc de dingue. Et tant mieux. Enfin, tant mieux pour Truex, tant mieux pour l'équipe 19. Mais ça fait de très belles performances et ça fait écho quand même à la très belle saison de Denny Hamlin chez Gibbs. Même si là, ça a été un petit peu plus, on va dire, compliqué pour Hamlin. Il y a encore eu un petit souci, Lilian, pour Hamlin dans cette course.
Ouais, mais alors, ouais, mais on en parlait déjà la semaine dernière, hein, et ne serait-ce pas le début de la fin pour Hamlin?
Aïe, aïe, il porte plus pas la poisse. On est qu'à la deuxième course des playoffs.
Non, non, mais autant tu vois Harvick, voilà, tu vois qu'il assure Harvick. Enfin, en plus, là, il a gagné la semaine dernière. Là, Richmond, c'était tranquille. Voilà, il a tenté une petite stratégie un peu décalée. C'est tranquille. Mais Hamlin, c'est à l'image d'un power en IndyCar, quoi. C'est malheureusement, c'est pas l'assurance tout risque, Hamlin. Et même après cette énorme saison régulière qu'il a fait, et ben là, tu dis que les deux courses de playoff, et ben voilà, il y a les petits couacs qui reviennent, qu'il n'y avait pas il y a quelques semaines.
Ouais, en fait, tu fais des petits couacs, 13 et 12e. Je pense qu'il y a pire quand même, hein.
Non.
Surtout avec l'avance qu'il avait en termes de points.
Était
Ouais,
assuré
mais.
au deuxième tour déjà.
S'il perd ce qu'ils appellent en anglais le momentum, petit Hamlin, on sait comment il marche. Hein.
On sait aussi comment il marche pas, oui.
Ouais, bah oui, ça y est, ouais, ça.
Bon, allez,
En
voilà.
parlant de couacs, il y en a un des coéquipiers de Denny Hamlin, en l'occurrence Kyle Busch, qui s'en sort plutôt pas mal.
Oui.
Puisqu'il est parti de l'arrière avec des soucis au moment de j'allais dire de la pesée, non mais
L'inspection.
de l'inspection. Et au final, c'est une sixième place et il était remonté dans le top 10. Et puis ensuite, il a fait quasiment toute la course dans le top 5. Enfin, la seconde partie de la course dans le top 5. Et je pense qu'on peut dire qu'il confirme quand même que ce sera un concurrent pour une place en deuxième partie des playoffs.
Oui, en deuxième. Après, en troisième partie, je suis pas sûr, mais en deuxième, oui. Parce que là.
Ah, quand je dis deuxième partie, c'est sur les cinq dernières courses.
Ah ouais, non, là, non, là, tu t'engages, là.
Ah, mais je me suis engagé la semaine dernière quand on a parlé, il y a 2 semaines.
Tu
Non,
mets
deux
Kyle
semaines.
dans tes, tu mets Kyle dans tes 8, je ne sais plus.
Oui.
Ok, ouais.
De mémoire, je mets Kyle dans mes 8. C'est pour ça que. Bah, il fait 7 et 7 et 6, hein, sur des pistes qui sont relativement compliquées.
Enfin, on parle de Kailouge quand même.
Ouais,
Hein,
enfin,
on parle de Kyle Busch.
Kyle Busch, il peut gagner partout.
On est d'accord. En général, Richmond, c'était plutôt son jardin il y a quelques années également.
Oui.
Mais je m'inquiète pas plus que ça. Kyle Busch a quand même remonté facilement le peloton et il n'a pas fait d'erreur.
Ouais. On va continuer un petit peu sur tous les prétendants au playoff. Troisième, Logano. Bah, course encore une fois, encore une fois, non, ça faisait un petit moment quand même qu'elle n'avait pas été aussi solide la course. Parce que troisième du premier segment, quatrième du deuxième, troisième à l'arrivée, 45 tours menés. C'est pas souvent que Logano nous a sorti des courses aussi solides cette année.
Tu parlais de
Ouais, c'est
momentum,
clair.
Lilian, tout à l'heure. Joey Logano, lui, c'est plus positif que négatif.
Ah bah, à l'image d'un Dillon.
Austin Dillon, pareil, deuxième des deux premiers segments, quatrième sous le damier, 55 tours menés, très solide.
Ah,
Il avait peut-être la
complètement.
voiture pour la gagne.
Et puis va chercher. Il a été chercher plusieurs fois la tête sous verre.
Ah oui, c'est.
Bon, après, au début de course, Kevin Harvick lui a pas fait grande résistance non plus.
Oui, bah après c'est logique, mais il allait pas fumer ses pneus pour si peu.
Qu'est-ce que tu vas résister dans les 30 premiers tours alors qu'il y en a 400, quoi?
On est d'accord, on est d'accord.
Même si Harvick peut pas saquer les frangins Dillon, il est capable d'être plus intelligent que ça, quoi.
Ceci dit, Austin Dillon, excellent début de playoff, et comme tu le disais Lilian tout à l'heure, vraie surprise, cette saison. En tout cas, sur la dernière partie de saison.
Bah, alors, moi, je le voyais passer le premier tour des playoffs. Mais pas de manière aussi brillante, quoi. Ouais. Ça fait le plein de points, comme l'a dit Geoffroy. Il a marqué 18 points de bonus sur les deux premiers segments de Richmond. Il finit quatrième derrière. Voilà, enfin, il est quasiment assuré. Allez, ouais, il a un pied et quatre orteils dans le deuxième tour des playoffs.
Oui, enfin, à moins de grosses catastrophes à Bristol, ça devrait le faire pour.
Oui,
pour...
oui.
Comme pour Chase Elliott qui fait cinquième.
Discret, mais il est là.
Discret, mais efficace.
Tu parles de discret, mais efficace. Je rajouterais également Alex Bowman. On n'envisageait pas grand-chose de sa présence au play-off. Et finalement, depuis un mois, c'est quand même solide, sans faire trop de vagues. Parce que je vois ses statistiques. Et Dover, c'est top 5. Daytona, bon, certes, Daytona est 7e quand même. Et là, il enchaîne une 6e place et une 9e place à Darlington et Richmond. Mais au final, il va quasiment valider sa présence au second tour avant la dernière course.
Et c'est presque une surprise quand on voit ses résultats depuis la reprise, quoi.
Effectivement.
Ouais. Sur la forme, on va dire, des dernières courses de la saison régulière, je le mettais pas. Après, voilà, tant mieux pour Bowman qui termine 9e, Kyle Busch 6e, on en a parlé, 7e Kevin Harvick, on en a parlé, Almirola 8e.
Je le mettrais dans le même bateau que Bowman.
Ah, je le trouve un peu en dedans, moi, sur ces dernières courses, là, Almirola.
Ouais, je pense qu'il surconduisait en milieu de saison quand il était impressionnant. Et là, à l'heure actuelle, à mon avis, il est à sa place.
Puisqu'il... Il est revenu il est dans le creux de la vague, ouais.
Ah, je pense qu'il pilote à son niveau, au même niveau que Clint Bowyer, par exemple. Ils sont tous les deux en fond de top 10, avec le même matériel, derrière Kevin Harvick. Kevin Harvick qui n'a pas forcé son talent, pour moi, c'est logique. Leur placement est logique.
Donc, Clint Bowyer, 10e. 11e, premier pilote qui n'est pas dans les playoffs, le rookie Tyler Reddick. Et ensuite, on retrouve des pilotes des playoffs. Hamlin, Kurt Busch, Cole Custer, qui sont 11, 12, 13. Non, 12, 13, 14, pardon. Matt DiBenedetto fait 17e. Blaney, 19e, on en a parlé. Et William Byron, 21e.
Oui. Mais on n'a pas trop compris ce qui arrive à Byron, parce qu'il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'erreur dans les stands, et puis ça s'est complètement effondré.
Bah, la même chose pour Blaney. Hein. Les deux ont connu une course, on pourrait pas dire cauchemardesque, mais presque. Hein.
Et bah, ce qui fait que ça fait deux pour l'instant des quatre éliminés, puisque avant Bristol, sont du mauvais côté de la barrière. William Byron pour 3 points, Cole Custer pour 8 points. Matt DiBenedetto pour 25 points et Ryan Blaney pour 27 points. Alors certes, la victoire n'est pas obligatoire pour tous ces pilotes-là, mais...
Les points de bonus vont valoir de l'or.
Blaney et DiBenedetto sans victoire, j'y crois pas un seul instant.
Ouais, t'imagines DiBenedetto qui va chercher sa première victoire à Bristol.
Ah bah, un an après... Ouais,
c'est le moment ou jamais, hein, pour Zala, c'est la course de sa vie. Là.
Honnêtement, pour être honnête, je suis d'accord avec vous, enfin surtout avec toi Geoffroy qui vient de l'énoncer. DiBenedetto et Blaney sans victoire, ça gagne pas. Mais DiBenedetto et Blaney sont excellents à Bristol, ce qui devrait rendre la course, je pense, très intéressante.
Écoute, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche en France. Ça va être drôle pour suivre un peu ça. Pour l'instant, ceux qui sont du bon côté de la barrière, mais qui peuvent un peu trembler, c'est Clint Bowyer plus 3, Arik Almirola et Kurt Busch plus 7. C'est quand même light, on va dire, comme avant.
Les points de bonus de premier segment ou deuxième peuvent te résorber ça.
Complètement.
La bubble est quand même très resserrée. Oui. Cole Custer à Arik Almirola, donc ça fait 4 pilotes, et ils se tiennent en 12 points. Puis je rajouterais Kyle Busch 9e, qui n'a que 12 et 9, ça fait 21. 21 points d'avance sur Cole Custer.
Ouais, mais bon.
Petite erreur et hop, tout est relancé.
Si tu pars du principe que DiBenedetto et Blaney sont bons à Bristol, Kyle Busch, tu le mets dans quelle catégorie? Très bon alors.
On est d'accord, mais on n'est pas à l'abri, comme sur la deuxième course d'IndyCar à Mid-Ohio, d'un petit strike sur un restart, qui joue du frein sur un restart, boum, t'exploses ton radiateur. Il faut pas grand chose.
Ouais, c'est bon, je viens de voir, tu l'as décalé dans la case. Très très bon à Bristol, mais n'a absolument pas de chat cette année, quoi.
Exactement. Tu as totalement lu dans mes pensées.
Donc,
oui, j'aime.
Ouais, mais oui, mais malheureusement, Kyle Busch, cette année, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. C'est très moche pour lui. Même à Bristol, malheureusement, il peut avoir une course sans et abandonner après 15 tours sur accident. On ne lui souhaite pas. Ça pourrait totalement changer la physionomie de la course. Et je pense que, oui, comme vous dites, ça peut être intéressant avec notamment des stratégies en fin de segment s'il y a des drapeaux jaunes. Ça peut être très très drôle savoir qui reste, qui sort. Puisque pour l'instant, seuls Harvick, Hamlin et Keselowski sont qualifiés. Après, pour les autres, il faut faire un peu de mathématiques. Mais bon, globalement, Logano, Truex, Dillon, Elliott.
À moins d'un cataclysme, ça passe.
Voilà, ça passe. Kyle Busch, ça devrait le faire. C'est Bristol. Tout peut arriver aussi à Bristol. On dit toujours Talladega ou Daytona, c'est l'enfer. Mais Bristol, ça peut vite être le bordel. Et avec une voiture en vrac, enfin, bon courage.
C'est la première pendant les playoffs en plus à Bristol.
C'est la première pendant les playoffs. Je pense qu'il y aura l'ami d'Aloïs, PJ One.
J'y pensais.
Non, pas de gros mots à l'antenne. Mais...
Oh, ça perd l'hippopète.
Un gros mot qui est plus usité depuis 1870.
Ouais. Tu veux que je sois PJ Tarantine? Bah voilà, je.
Oh, flûte.
C'est ça.
Ça la creux bleu.
Sacre bleu, ouais, diantre. Donc oui, du PJ One à Bristol. Le dernier vainqueur à Bristol, messieurs, c'est Chase Elliott lors de la All-Star.
Oh, bon. Quelle course magnifique que j'avais totalement oubliée de ma mémoire.
Au moins, on évitera les bas de caisse fluo.
Oh, c'est vrai. Alléluia. Et finalement, ça va être une belle course.
Rien que pour ça, déjà, ce sera beau.
Tokyo Drift.
Ouais, sponsorisé par Fast and Furious.
C'est ça. Donc voilà un petit peu pour Bristol, messieurs. Je vous avouerai que j'ai pas les horaires sous les yeux, mais je vais aller les chercher.
Parce... Oh, ça doit être du 1h30 du matin.
Ouais, c'est quelque chose.
Ah, 2h grand max.
Entre 1 et 2, comme d'hab.
Ouais, par contre, cette année, je suis curieux d'avoir. J'aimerais bien voir toutes les cérémonies d'avant-course. Parce qu'en général, à Bristol, ce qui compte sur la course nocturne, c'est l'intro des pilotes, c'est toujours un truc de dingue avec le public. Alors j'espère qu'ils vont pas nous faire la même merde qu'aux 500 miles d'Indianapolis. parce que Brad Keselowski qui sort Kyle Busch, c'est un trou du cul. Mais s'il n'y a pas de réaction du public, ça va quand même être très très moche. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Et ensuite, ce qui se passe à Bristol, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est qu'on a tous les enfants des pilotes qui nous chante l'hymne américain.
Oh non, on peut éviter ça par contre.
Ah si, avec la main sur le cœur et un hymne en canon, parce que en général, quand il y en a qui commencent, l'autre a déjà fini, tu vois. Ceux qui regardent la caméra, ceux qui regardent le micro, ceux qui regardent les parents, ceux qui regardent les fans dans le public. Voilà.
Celui qui se met le doigt dans le nez, c'est ça?
Exactement.
Les enfants sont merveilleux, comme disait l'autre.
C'est ça. Mais c'est vrai que c'est souvent très très drôle quoi. Mais là cette année on n'aura pas, alors à moins qu'ils nous fassent un duplex depuis les jardins de tous les enfants, et ça peut être très très drôle. Je sais pas comment ils vont nous faire ça cette année, mais voilà, j'ai hâte de voir ça. Et effectivement c'est du 19h30 pour la course en heure locale, donc ce qui fait du 1h30 pour nous en France.
Tu vois, je te l'avais dit.
Ouais, donc un drapeau vert vers 1h48 à la grosse louche.
Je dirais plutôt 52 parce qu'ils sont souvent en retard, hein.
c'est le temps de trajet de l'image sous l'Atlantique.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Je suis pourtant à la fibre, hein, mais bon.
Ah oui, non, mais bon. Ouais. Tu m'as perdu les segments, 2 fois 125 tours et 1 fois 250 pour terminer. Donc voilà, je n'ai absolument pas regardé la météo. Ça, c'est une spéciale à Louis, savoir s'il pleut. Sachant qu'à Bristol, tu mets un parapluie à 100 mètres d'altitude et c'est bon, il pleut plus. Quoi.
Merci.
Ah, c'est à peu près l'idée.
C'est à peu près l'idée, on est d'accord.
Donc, pour conclure, qui passe pas au second tour des playoffs?
Ouais, qui passe pas. Qui passe. C'est pas un gestionnaire de mot de passe à la base. qui passe pas. vas-y, réponds parce qu'il faut que je réfléchisse.
J'ai regardé mes pronostics de début de playoff. J'avais malheureusement mis Austin Dillon, donc je pense que c'est râpé.
Oui.
Avec Cole Custer, Kurt Busch et Di Benedetto, les trois là, je pense que je peux les garder dedans.
Tu sors Kurt alors qu'il est pour l'instant qualifié?
Ouais, je suis pas convaincu.
Ah, tu restes sur, ouais, ok.
Je reste sur mes positions et je vois bien Byron se qualifier. Râler pas crête.
Oui, c'est
comme
ça.
il y a 2 semaines. Et du coup, bah, c'est soit Clint Boyer, soit Almirola, un des deux de la Stewartas qui passe à la trappe. Allez, je dirais bien Almirola, puisque Boyer a quand même fait une belle première course à Bristol cette saison.
Et Blaney qui gagne, Byron qui sort Boyer, et du coup, Kurt Busch qui gicle avec la victoire de Blaney. T'imagines un peu?
Ah bah, moi je dis c'est pas impossible.
C'est ça. Donc, voilà. Après, de toute façon, on verra bien, mais c'est pas des pilotes qu'on voit jouer le titre, donc j'ai envie de te
non,
dire.
Non, dans tous les cas.
Dans tous les cas, avec le menu dantesque qu'il y a au deuxième tour, ça fera pas l'affaire. Donc voilà.
Ah, mais t'as quand même t'as la dégâts, hein. T'es pas à l'abri d'une surprise. Hein. On sait qu'on a pour coutume de dire que c'est chasse gardée de la Penske pendant les playoffs, mais t'es pas à l'abri quand même d'une surprise venue de je ne sais où.
Et tu vois, je te dis, William Byron qui passe râler pas crête à Bristol, qui en claque une à Talladega dégâts et c'est au troisième tour des playoffs. Hein.
En plus, sur Oval, ouais, à plaque, c'est faisable. Hein.
Il l'a fait à Daytona il y a 2 semaines. Hein.
T'as vu la gueule du troisième tour des playoffs?
Ah, c'est autre chose après le troisième tour.
Texas, Kansas, Martinsville, bim!
C'est autre chose, chaque chose en son temps.
Au revoir, Byron. Mais bon, non, voilà, après, honnêtement, enfin, tant qu'on n'a pas un des gros, quatre gros qui est pas en danger, je crois qu'on s'en fiche, en fait. Enfin, on sait très bien que ça va pas jouer le titre. Même un Blaney, même si ça venait à gagner à Talladega, Blaney, enfin, mais jamais tu le mets dans le Final Four, quoi. Enfin,
ah voilà. Non, c'est clair. On est d'accord.
Si tu le mets, c'est que t'as plus qu'un euro en poche et que tu sais que si tu le gagnes, tu vas devenir milliardaire et c'est tout, quoi.
En attendant, Brian Blaney, c'est même pas dit qu'il sorte du premier tour.
Oui, c'est pour ça.
Malheureusement, ouais.
Il faudra un miracle ou la victoire.
Bah, la victoire est un miracle, je crois, pour Brian Blaney en ce début de playoff. Donc
tout
voilà.
Tout comme Kyle Busch cette saison.
Non, c'était un mirage pour Kyle Busch. C'est différent.
Parce que même en Xfinity, ça gagne plus.
Mais en même temps, heureusement, elle était tellement laide, la Bieco.
Ouais, c'est vrai qu'elle faisait mal au
cul. On va dire que c'est mérité.
Rien que pour ça méritait pas d'être sur la victory lane.
Ah ouais, non, je suis désolé pour tous les fans de Kyle Busch. J'ai rien contre Kyle Busch, mais alors la déco, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, même le gamin de Kyle Busch aurait pas fait une déco aussi moche, quoi. Enfin voilà, quoi, c'était moche. Mais bon, après voilà, il faut tout pour faire un monde. On va arriver dans le mois d'octobre avec toutes les décos roses pour lutter contre le cancer du sein, mais là celle-là, non, elle était juste pas possible, quoi. Non, je suis désolé. Tout mais pas ça, quoi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on termine sur cette mocheté de Kyle Busch? Enfin, cette mocheté de voiture de Kyle Busch.
Oh bah, je pense qu'on peut terminer sur ces deux belles phrases.
Okay. Cette mocheté de Kyle Busch, j'aime bien, ouais.
Ok, bah on termine là-dessus, on se donne rendez-vous ce week-end. Enfin, même pas, c'est quoi, c'est jeudi soir, il y a de la Truck. Vendredi soir, il y a de la Xfinity. Samedi, il y a de la Cup. C'est finale de la saison régulière en Xfinity, c'est début des playoffs en Truck et c'est fin de premier tour en Cup. Autrement dit, Bristol, c'est une course charnière. Voilà, je crois qu'après ça, on a tout dit. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous pour les courses et la semaine prochaine pour le débrief. Salut tout le monde.
Bon week-end de course et à la semaine prochaine.
Bon week-end et bonne fête pour Kyle Busch qui va gagner ce week-end.